Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La chanson, une voix, donc une chanteuse, un chanteur ou un groupe vocal. Avant cela, un parolier, un compositeur, sans parler de maison de disques. Et aussi, métier moins connu, éditeur de musique. Des noms propres que l'œil aperçoit mais ne retient pas. Au début des années 90, Thierry Aveline s'était intéressé à la personnalité de Raoul Breton et à son influence sur la chanson française. Raoul Breton, qui avait découvert Charles Trenet, Jean Nohain, Mireille et tant d'autres, fut, avant cela, c'est étrange, une sorte de danseur mondain. Découvreur de talent, oui. Détecteur de talent, plutôt, selon Patachou. Profil perdu, première partie, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 janvier 1993.
J'étais ignorant de la chanson. Moi, j'arrivais de Perpignan, je venais pour faire de l'école des beaux-arts à Paris. Je connaissais très peu les chansons, très très peu. Alors ce que j'ai fait, c'était les chansons que je ressentais, mais je n'ai pas été influencé puisque je ne connaissais pas les autres. Un jour, j'ai entendu une chanson de Mireille et Jean Nohain qui s'appelait, je crois, oui, Le jardinier qui boite. Et je me suis dit, tiens, voilà qu'on fait des chansons maintenant dans le genre de celles que je fais pour moi. Alors je me suis dit, peut-être que ça pourrait intéresser les gens. Et je suis allé voir des éditeurs, Raoul Breton, je venais de faire Il y a de la joie. Et il a donné cette chanson à Maurice Chevalier, qui en a fait le succès que vous savez. C'est donc grâce à Raoul Breton, éditeur, et à Maurice Chevalier, que j'ai été connu en tant qu'auteur.
Profil perdu, Raoul Breton.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Bon, alors voyez ça. Ah il râle. Ça s'appelle le 3 de la rue Rossini. Eh bien, c'était la maison du marquis et de la marquise. Avant d'être une édition musicale, c'était la maison du marquis et de la marquise. Parce que l'édition, c'était eux deux, en fait. Et c'est peut-être parce que j'étais très gamine, j'étais môme, moi.
Vous étiez secrétaire, vous étiez la secrétaire de la maison.
J'étais la secrétaire de la maison. Ouais. Et alors, je suis arrivé dans ce monde qui n'avait rien à voir avec le monde dans lequel j'avais été élevé. Et non pas qu'il fût moins bien ou meilleur, mais disons simplement qu'il était différent. Ces gens donnaient une impression de bonheur, une impression de gaieté. Je crois n'avoir jamais entendu ailleurs que dans une maison où pleine d'enfants, vous savez, des rires. C'est une maison pleine de rires. La marquise, déjà, avait une espèce de joli rire, comme ça, en cascade, cristallin. Etc. Elle riait beaucoup. Lui, le marquis, était quelqu'un de beaucoup plus froid d'aspect, beaucoup plus... C'était à sa taille aussi. C'était un géant. Je garde aussi ce souvenir de la taille et de l'homme quant à l'esprit et de la taille physique. Une espèce de grand homme, comme ça, follement distingué, assez beau.
Mireille nous a dit que c'était un monsieur.
Mais bien sûr que c'était un monsieur. Et puis il avait cette allure, cette distinction, un peu british comme ça. Et elle, une toute petite bonne femme, exquise, petite brunette, très potelée, très ronde, des toutes petites mains. On avait le sentiment qu'il y avait encore des fossettes des bébés. Et là, on
ça n'a pas changé, Patachou.
À gauche, absolument pas. Sinoche, mon chien, là tu es là. Alors. J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas changé la porte. Ça, c'est étonnant. L'escalier. Il n'y avait pas d'ascenseur, moi. Je ne crois pas. J'ai pas le souvenir. Puis en tout cas, même s'il y avait un ascenseur, à l'âge que j'avais, je ne regardais pas l'ascenseur. Comme j'étais toujours plus ou moins à l'heure, il faut le dire. Et on prenait cet escalier. tournais le bouton SVP. Et la porte était lourde, elle l'est toujours. Et elle faisait bonjour. Bonjour elle faisait madame. Un boucan infernal quand on la fermait. Est-ce qu'elle fait toujours un boucan infernal
bonjour,
quand on la ferme
ouais.
Et ben elle fait un boucan infernal quand on la ferme.
Avec Patachou, nous sommes donc rentrés au 3 rue Rossini, près de l'hôtel Drouot, à Paris, le siège des éditions Raoul Breton. Raoul Breton, 1896-1959, qui réunit dans son catalogue à la fois la chanson de la nouvelle vague des années 30, Mireille, Jean Nohain, Marcel Achard, Noël Noël, et puis tout le répertoire de Charles Trenet, de Charles Aznavour, de Gilbert Bécaud, auquel il faut rajouter parmi d'autres les noms de Félix Leclerc, Louis Amade, Pierre Delanoë, Jacques Dattin, Henri Comté. En un mot, l'un des foyers de la chanson d'expression française contemporaine.
Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues. C'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues.
En m'en allant à Bergame, l'autre jour vendre mes œufs, j'ai rencontré trois gendarmes, un tout jeune et deux grands vieux. En m'apercevant les lâches, ils m'ont barré le chemin. Le petit frisa sa moustache et m'a prise par les mains. Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mesdames. Mais non, messieurs. Malgré mes cris et mes larmes, ils ont voulu voir mes œufs. Ben voilà. Mais oui, mesdames. Mais oui, messieurs.
Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Le ciel était si doux, la mer si belle. Oui, mais voilà ce soir, j'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie ?
Henri Comté.
Il a été le premier éditeur, à mon avis, qui ait pensé avec autant de vigueur à l'argent. Il a compris très vite qu'il ne fallait pas laisser la chanson sur le petit chemin où elle roulait. Vous savez comment ça marchait, la chanson. Il ne se passait rien pour l'auteur, pour les auteurs. Un éditeur vous prenait une chanson et l'auteur était tout heureux. Quand il l'entendait chanter quelque part, ça s'arrêtait là, ou à peu près, j'exagère, mais c'était ça à peu près. Bien, et si l'éditeur était gentil, il lui offrait un billet de 50 balles de temps en temps, etc. Bon, bien entendu, il y avait aussi... Vous savez qu'on se méfiait des éditeurs. Un peu plus tard, à mon époque, je peux dire, c'est-à-dire aux environs des années 40, le corps vraiment des auteurs était très méfiant en ce qui concerne les éditeurs. Vous connaissez leurs pratiques de l'époque, en ce qui concerne par exemple les petits formats, en ce qui concerne les pourcentages sur les disques. Ils avaient leur petit truc à eux pour vous déclarer un nombre de petits formats vendus qui ne correspondait pas du tout à la réalité.
Il n'y avait pas de contrat entre l'éditeur.
Il y avait un contrat, mais qui n'était jamais respecté. Ouais. L'éditeur s'entendait avec son imprimeur et il nous déclarait la moitié de ce qu'il avait fait imprimer réellement. Bon, c'est une méthode qui a duré très longtemps, mais justement qui a été un petit peu... bousculé et sauvé, vraiment renié par les grands éditeurs comme Breton, comme Salabert, comme Boecher. Parce qu'ils ont tout de même compris un jour qu'ils avaient, c'était normal que l'auteur vive et qu'ils avaient besoin des auteurs. Donc, ça s'est un peu arrangé, ça.
C'était la même chose pour les compositeurs aussi.
Bien sûr.
Ouais. Ouais. Et vous avez vraiment l'impression que Raoul Breton a souhaité donner une autre philosophie ou une autre dignité à ce métier d'éditeur ?
Oui, mais non seulement il ne l'a pas souhaité, il l'a fait. Hein. Ouais. Je peux vous dire que personnellement, moi qui n'ai pas beaucoup travaillé avec Raoul, quand j'ai débuté et que je l'ai vu, que je l'ai rencontré, la première phrase qu'il m'a dite, c'était une phrase dans le genre « Bon, dis-toi, oui, c'est très joli, tout ça, mais vous débutez dans la chanson, je sais ce que c'est que le métier, vous allez avoir besoin d'argent, vous êtes raide, vous n'en avez pas, moi je vais vous en donner. »
Dans le petit bois, de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois, de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet.
Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle, devinez. Je pars en vacances.
Oh,
salut les copains. Voyez, j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Je vous aime bien, mais comprenez quand même, le ciel de Pantin est pauvre en oxygène. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie.
On suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière, on tourne au coin du cimetière pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures on rentrera, suivant d'autres murs, d'autres grilles, à part ceux de l'école des filles, jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins.
Pierre Sacca, je suis venu vous voir pour vous me parler de Raoul Breton, parce que vous êtes un peu notre historien de la chanson. Ce que je voudrais que vous me disiez, c'est la place et l'influence de Raoul Breton dans l'évolution de la chanson.
Oui, vous avez raison, parce que c'est une époque charnière. Hein. Les années 30, l'envolée, la première grande envolée des loisirs correspond justement à la situation des Français de l'époque, savoir qu'après le Front Populaire, les congés payés, ça donne un essor au loisir et à la chanson, parce que justement, on s'amuse, on danse, l'accordéon, etc. Et Raoul Breton fait partie de ces nouveaux éditeurs qui changent complètement la face du métier, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps des managers et des exploitants, mais pas au mauvais sens du terme, des chanteurs et des chansons. Jusqu'alors, c'était quand même quelque chose d'assez restreint, c'était le petit artisan dans son bureau qui vendait des petits formats. Là, d'un seul coup, avec Breton, il faut citer aussi Roger Seller, qui était aux éditions Boecher, et Rolf Marbot, les trois tenaient, on peut dire, le marché de la chanson à Paris, et ils avaient les plus grosses vedettes.
Salabert
était passé déjà. Ouais. Salabert était le premier, mais il n'était plus dans le coup dans les années 36 jusqu'à la guerre de 40. Les trois qui tenaient vraiment le marché, c'était Seller, Breton et Marbot. Et Breton était un des premiers parce que il avait, si vous voulez, un flair. Il était doué d'un sens de ce qu'il fallait éditer ou pas. Et ce flair l'a servi tout au long de sa vie. C'était un homme cultivé, intelligent en plus. Et il a véritablement bien mené la chanson à cette époque-là.
Il a découvert Trenet, on peut le dire. Et Mireille
oui,
et Jean Nohain.
Il n'y a pas que Trenet, puisqu'il avait commencé avec Jean Nohain et Mireille. Parce que je vous dis, il avait le le sens de trouver parmi les ceux qui commençaient le métier, de trouver ceux qui avaient un peu plus de talent que les autres. Et puis il les conseillait bien parce que il choisissait les chansons qui avaient plus de chances de marcher que d'autres. Et ça, c'était quand même très important dans la carrière d'un auteur et d'un compositeur.
Parce que dans la décennie précédente, c'était les chansons Vincent Scotto, les opérettes, c'était des choses plus Albertville, mais c'était plus léger, c'était moins, peut-être moins poétique.
Sans vouloir être merchandising, mais il faut dire que là, c'était plus relax, plus amateur. À partir du moment où Breton, Marbot arrive, ça commence à devenir un peu plus showbiz, vous voyez. Il faut que ça marche, qu'on vende du petit format, il faut qu'on fasse de la promo déjà. Et regardez Raoul Breton, si c'était un pionnier. Je faisais des émissions, j'étais assistante de Jean Noël, par exemple. Je faisais des émissions sur c'était Paris Inter à l'époque. France Inter n'existait pas encore. Il y avait la chaîne parisienne et il y avait RTL, qui s'appelait Radio Luxembourg. Voilà, c'était les deux grandes stations. Et je faisais des émissions qui marchaient pas mal. Alors, Raoul Breton me sollicitait pour justement promouvoir ses chansons et me sollicitait pour que je passe de préférence tel artiste pour pousser telle chanson à tel moment parce qu'il avait besoin qu'on l'entende la chanson, etc. Et il faisait avec moi ce qu'il faisait avec les autres. Donc déjà, il avait le souci de lancer toutes les chansons qu'il avait dans son catalogue. Ouais. Vous voyez ?
Est-ce qu'il a eu un rapport important avec le monde du disque aussi ?
Ah ben oui, le disque commençait seulement. C'était des 78 tours. Mais c'était déjà un matériau, si on peut dire, et un espèce de tremplin pour lancer les chansons. Parce que grâce au disque, évidemment, on avait... parce qu'à l'époque, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y avait encore, et surtout la radio française, des émissions de variété, donc de chansons, avec des orchestres. Il n'y avait pas que le disque. C'était, vous aviez des émissions par musicales, et on prenait un orchestre, et les chanteurs venaient accompagnés par cet orchestre, et on faisait une heure de chansons, mais en direct. Mais avec l'orchestre dans le studio.
C'est ce qu'a fait Jacques Canetti à Radio Cité aussi.
Voilà, c'est ça. Bon. Ouais. Et alors, en addition, vous aviez le 78 tours. Mais ça n'était qu'une des parties de la diffusion des chansons sur les antennes. Ouais.
Quelle est l'importance de Raoul Breton dans la carrière de Charles Trenet ?
Alors, d'abord parce que il a tout de suite vu que Trenet était un garçon qui allait éclater. Mais attention, Trenet chantait avec Johnny Hayes. Bon, mais alors déjà Marbot s'est intéressé à lui. Mais quand Trenet a décidé de chanter tout seul, à la suite d'ailleurs de, il faut bien dire qu'il n'avait pas décidé comme ça. C'est parce que Johnny Hayes faisait son service militaire. Ils se sont retrouvés séparés pendant quelques mois. Trenet a chanté tout seul. Et alors là, ça a été un tel éclatement. Il a écrit pas mal de chansons. Alors, c'est là où le rôle important de Breton. C'est d'abord parce que il lui a fait faire des émissions, justement chez Canetti, Radio Cité, pour déjà le préparer à cette carrière de vedette. Mais en plus, il lui a donné le goût de se situer en quelque sorte dans la chanson, le fou chantant, parce que il attirait la jeunesse parce qu'il chantait comme un dingue. Mais Breton a accentué justement cette image parce qu'il trouvait que c'était jeune et que ça allait marcher. En plus, il l'a avec sa femme, la marquise. C'est eux qui lui ont trouvé son costume de scène, son chapeau. Ils l'ont bien conseillé. Alors, ils lui ont dit, mais oui, mais c'est formidable, tu prends un costume, mais tout bleu. Vous vous rendez compte, il avait le costume bleu, la chemise bleue, les chaussures bleues, tout était bleu, sauf la cravate blanche et un œillet à la boutonnière blanc. Alors, quand il arrivait, mon vieux, ça vous faisait, aucun artiste avant ne s'était habillé de cette façon-là, parce que il disait que le répertoire devait aller avec le costume.
La radiodiffusion française présente Charles Trenet dans Panoramique. Avec Marthe Mercadier. C'est une émission de Pierre Lost et Gérard Néry, mise en onde de Pierre Arnaud de Chassis-Poulet. Panoramique.
Autour du monde, autour du monde, il y a des brunes. Il y a des blondes, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'amour, la vie.
Nous sommes Rue Rossini. Techniquement, il nous est facile de réaliser cette émission puisque les nombreux studios des éditions Breton nous font bénéficier de ce privilège rare, être tranquille pour bavarder quelques instants. Et pourtant, nous aurons l'occasion aujourd'hui d'entendre ici quelques-uns des grands artistes qui viennent presque tous les soirs retrouver les maîtres de ces lieux, le marquis et la marquise, alias pour les intimes, Monsieur Raoul Breton et sa femme.
Breton a été très important dans la carrière de Trenet, ça c'est indiscutable. Et c'est, il, regardez, prenons l'histoire de la mer, par exemple. Bon, bah c'est vrai, il me l'a raconté Raoul Breton. Trenet, un jour, a eu l'idée de la chanson de la mer. Bon, il la chante à Breton, parce que bon, il était souvent rue Rossini. Bon, ils passaient des soirées ensemble, ils racontaient ce qu'il venait d'écrire. Et Breton dit, la chanson est merveilleuse, tu vas la mettre dans ton prochain tour. Trenet met la chanson, c'est le beat le plus total. Et il s'emmerdait dans cette chanson, il n'y arrivait pas. Alors il dit, non, ça y est, je laisse tomber, elle est mauvaise. Mais non, Raoul, vous êtes fou, là. Non, vous dites, par moment, vous faites des conneries, hein, faut le dire. Bon. Alors Raoul dit, comment? Mais non, elle est belle, la chanson, etc. Bon, bref, ils ne s'entendent pas sur cette chanson, et il ne la met plus jamais, Trenet. Il se passe des mois. Et puis un jour, Trenet fait une grande émission en Hollande. Et l'organisateur du grand spectacle avait un grand orchestre pour accompagner Charles Trenet, qui était une grande vedette à l'époque. C'était pas rien d'accueillir Charles Trenet dans les pays nordiques. Et puis, avant de se séparer, l'organisateur dit à Raoul Breton, il y a quand même, monsieur Breton, une chose qui m'inquiète, c'est que j'ai une magnifique chorale, mais des garçons et des filles, ils sont charmants, ils voulaient tellement chanter avec monsieur Trenet, vous pouvez pas trouver une chanson dans son répertoire qu'il pourrait l'accompagner, je vous croyais que... Alors, Breton, il fait, écoutez, alors là, je vois, d'un seul coup, dit, putain, l'idée, la mer. Parce que la mer, c'était un refrain qui était obligé de répéter Trenet. Sans ça, c'était trop court. Et Raoul a dit, si, il commençait et il chantait la chanson comme ça, et que derrière, après, quand il y a la reprise, voyez, voyez, bon, s'il y avait la cœur de ces 40 ou 50 mômes derrière, ça pourrait peut-être... L'idée de Breton. Alors, il essaye de convaincre Trenet. Enfin, il pousse à la roue. Il répète. Ça a été un triomphe. Quand Trenet rentre à Paris, il enregistre la chanson avec des chœurs. Et vous connaissez la suite, succès mondial.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de la grande gentillesse que vous avez manifestée vis-à-vis de moi. Je voudrais bien encore rester à vous chanter des chansons, mais je dois vous dire la vérité, car je vous dois toute la vérité. Mon pianiste enregistre demain matin chez Columbia, à New York, et il prend son train à 10h moins 10 maintenant. Il a juste le temps de filer à la gare. Aussi, si vous voulez, je vais vous chanter une chanson sans piano, car il est parti. Hein? Laquelle, voulez-vous ? La mer ? Elle était déjà réduite à sa plus simple expression avec un piano. C'est une chanson en général que, comme vous la connaissez par le disque, que j'ai enregistrée avec 70 musiciens et 20 choristes. Eh bien tant pis, je vais essayer de vous la chanter sans piano et sans rien puisque le pianiste est parti. Je vais prendre le ton quand même. La mer. On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Jean-Jacques Debout, j'ai cherché vainement partout, dans des mémoires, dans des documents, je suis même allé à la bibliothèque de l'Arsenal pour essayer de retracer le fil de la vie de Raoul Breton à ses débuts, et je n'ai presque rien trouvé. Il était originaire d'où, et comment est-ce qu'il en est arrivé à rentrer dans ce monde du spectacle?
Il était le fils d'un cultivateur de Nohant, dans l'Indre, près du château de la maison de famille de Georges Sand. Il était né à une vingtaine de kilomètres de là, et son frère, alors il avait un frère aîné qui était un musicien classique qui avait étudié la musique à Bourges et qui avait été nommé à la tête de l'Opéra Comique. et qui est venu donc pour diriger une partie de la musique, enfin la section de la musique de l'opéra comique. Et c'est comme ça qu'il a fait venir son frère à Paris, donc Raoul Breton, est monté à Paris. Mais lui, il n'était pas musicien. Si, il était musicien dans l'âme.
C'était
parce qu'il a écrit aussi des chansons.
Au début du siècle, il est né en 1896, je crois.
C'est ça, oui. Ouais. Et il est monté à Paris, et là, par son frère, il va dans une soirée, il rencontre un homme qui lui dit « J'ai une agence ». Enfin, ça s'appelait peut-être pas une agence, ça s'appelait je sais pas quoi. Mais en tout cas, je trouve des soirées à des hommes qu'on paie le soir pour aller danser avec des jolies femmes qui ont envie de venir avec des beaux garçons qui portent bien le smoking, la toilette, et qui en plus doivent savoir danser le tango, la valse, le charleston, puisque c'était la danse de cette époque-là. Et Monsieur Breton, Raoul Breton, savait exactement danser tout ça, parce qu'il s'intéressait de très près à tout ce qui se faisait dans la mode, à tout ce qui descendait un petit peu dans la rue, comme on dit. Et donc il s'est entendu avec cet homme-là, qui tous les soirs lui trouvait des soirées et le faisait aller à gauche, à droite, dans ce qu'on appelait les soirées mondaines de l'époque. Et un jour, il rencontre Damia. C'est là, du reste, où sa vie bascule. Mmh. Il rencontre Damia, qui était la grande chanteuse réaliste de l'époque. En plus, très belle femme. Mmh. Et il tombe littéralement amoureux d'elle. Et il l'invite à danser, et elle lui dit, vous savez, je ne danse pas, malheureusement. C'est pas que j'aimerais pas, mais pourquoi on s'assoit pas et on... Par contre, j'ai envie de discuter avec vous. Et puis, elle lui parle de sa vie. Et Damien lui dit, moi, j'ai quelque chose pour vous de bien mieux. Que vous n'allez pas faire toute votre vie, aller danser le tango, aller danser la valse avec les femmes du monde qui sont à Paris. Moi, j'ai une idée. Chevalier répète une opérette qui s'appelait « Là-haut ». Il est très embêté parce que Maurice... Son inquiétude, c'est de ne pas être dans le coup. Il n'a qu'une peur, c'est de se démoder par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et je sais qu'il cherche quelqu'un pour aller à Londres, pour apprendre les nouveaux pas d'une danse. Et elle présente donc Raoul Breton à Maurice Chevalier, puisqu'elle était très amie de Chevalier. Et là-dessus, Chevalier devient très ami avec lui. Et puis, il l'envoie à Londres pour apprendre donc ses pas. Et il lui demande de revenir dans sa loge pendant 15 jours, dans la loge des Bouffes Parisiens, où il jouait cette revue, enfin ce spectacle.
C'était une opérette.
Une opérette, oui. Et Monsieur Breton, donc, est venu tous les soirs pour lui enseigner les pas qu'il avait appris lui-même à Londres, pour les enseigner à Chevalier. Et là, autour de Chevalier, il a rencontré Miss Tinguette, il a rencontré Joséphine Baker, il a rencontré beaucoup de gens. Bleustein Blanchet, qui montait sa fameuse Radio-Cité.
Radio-Cité, oui.
Il a rencontré un tas de gens et puis tout d'un coup il a décidé d'arrêter donc de faire de la danse, de faire tout ça, et puis il a dit à Damia, mais après tout moi j'ai envie de trouver des talents pour écrire des chansons, parce que vous avez un talent fou, Chevalier, toi t'as du talent, mais il avait bien compris que toutes ces vedettes cherchaient quoi, et l'angoisse des chansons, car elles n'écrivaient pas parce qu'ils n'étaient pas tous auteurs-compositeurs. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de fonder donc une maison d'édition. Il a d'abord racheté le fonds d'un ancien éditeur qui lui a vendu pour 3 francs 50 sa petite édition.
Passage de l'industrie,
voilà.
Qui était le quartier de la chanson.
Absolument. Et il a donc racheté cette édition, cette petite édition. Et puis il a donc monté, là, les éditions Raoul Breton. Et ses premiers interprètes ont été donc Chevalier, ont été Damia. Et puis c'est là où il a rencontré, ben après, tout ce que vous savez. Donc sa vie a commencé comme ça.
Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil du sac de toile, mais fidèle après le trépas, le rame ne s'envole pas dans une étoile. Désormais voué au sanglot par ce nouveau crime des flots qui teint la Navre, entre la foudre et l'océan, elle appelle dans le néant le cher cadavre. Et nul n'a pitié de son sort que la mouette au large essore qui, d'un coup d'aile, contre son cœur tout frémissant, attire et recueille en passant l'âme fidèle. L'âme et l'oiseau ne font plus qu'un, ils cherchent le corps du défunt, loin du rivage. Et c'est pourquoi, sous le ciel noir, l'oiseau jette avec désespoir son cri sauvage. Ne tuez pas le goéland qui plane sur le flot hurlant, qu'il effleure, car c'est l'âme d'un matelot qui plane au-dessus d'un tombeau et pleure,
Penzeller, vous êtes un historien de Paris et nous sommes dans un quartier qui s'est bien transformé, mais qui, jusque dans les années, jusqu'à la guerre, était ici le quartier de la chanson, le quadrilatère de la chanson. Nous sommes passage de l'industrie où Raoul Breton, lorsqu'il a démarré dans le métier d'éditeur, s'est installé et a pris un petit bureau ici. Alors ce que j'attends de vous, c'est que peut-être vous me parliez de Raoul Breton, mais en tout cas vous me racontiez un petit peu ce passage et ce quartier de la chanson.
Oui, nous sommes passage de l'industrie qui aujourd'hui et depuis 1936 est amputé de la moitié de lui-même, c'est-à-dire de la partie qui s'appelle Gustave Goublier. Mais Gustave Goublier, c'est l'un des deux frères d'un musicien qui était à cheval entre le lyrique et puis la chanson, qui justement fait partie de toute cette cohorte d'auteurs qui sont venus ici. Alors pourquoi ces auteurs sont-ils venus ici ? En réalité, à cause des deux établissements jumeaux qui se faisaient face à l'entrée du boulevard de Strasbourg, et qui d'ailleurs existe toujours, mais sous des formes bien différentes. D'une part, l'Eldorado, au 4, et en face, la Scala, au numéro 3.
Qui étaient des musicals. Hein.
Et qui étaient des musicals, oui, qui étaient des musicals. J'ai hésité un instant parce que, disons que l'Eldorado a marqué le passage entre le Kafkons et le musical. Et l'homme qui véritablement a inventé, au-delà même des apparences de ce palais de l'Eldorado, le système qui va devenir celui de la chanson et qui va susciter tout ce quartier de la chanson, eh bien, cet homme-là, c'est un homme qui, en 1867, alors que l'exposition universelle va avoir lieu à Paris, a l'idée géniale faire venir une comédienne. Et vous voyez, là, tout d'un coup, on a l'air de s'éloigner et de partir du côté du théâtre. Mais cette comédienne, Mlle Camille, elle va déclamer la grande tragédie. Et tout d'un coup, dans ce lieu qui était plutôt un beuglant, que les Goncourt traitaient de lieu populaire, c'est-à-dire abominable, eh bien, cet homme qui s'appelait Monsieur Lorge, hein, c'est vraiment le père de tout ça, eh bien, il va obtenir du directeur des théâtres une sorte de passe-droit qui va être valable pour tous les lieux de la chanson, c'est qu'on pourra chanter désormais en faisant des mimiques, en ayant des costumes, et on va créer le théâtre de la chanson. Hein. Et ce théâtre de la chanson va être accompagné d'une vie qui n'existe plus aujourd'hui, qui est la vie des cafés. Parce qu'on allait chercher les engagements dans les cafés, et on pourrait alors se demander pourquoi le Faubourg Saint-Martin était plus important que le Faubourg Saint-Denis. C'est amusant parce que ce passage de l'industrie, qui autrefois faisait les deux côtés du boulevard de Strasbourg, il relie les deux faubourgs. Hein. Alors pourquoi le Faubourg Saint-Martin est devenu plus important ? Parce que le Faubourg Saint-Denis était déjà plus ou moins la continuité de la rue Saint-Denis et le chemin de la prostitution. Hein. Alors le Faubourg Saint-Martin, lui, était un lieu d'artisans, populaire, Et il y a toujours, au, je crois que je ne me trompe pas, je crois que c'est le 34 de la rue du Faubourg-Saint-Martin, l'UNAF, qui est l'Union Nationale des Accordéonistes de France. Ils y sont toujours. Eh bien, effectivement, l'accordéon, c'est un instrument qu'on fabriquait là, dans cette rue, dans ce pays d'artisans. Et alors, autour de ça, autour de ces ateliers, de ces cafés, ben, les éditeurs et les paroliers vont venir. Vincent Scotto, puisque nous sommes dans le passage de l'industrie, a habité juste à l'angle du boulevard, là, au numéro 9, qui songerait aujourd'hui une petite chambre nue où il arrive en 1906. Eh bien, il était venu préalablement à Paris. Et où était-il venu? Au 33 rue du Faubourg-Saint-Martin. Chez qui? Chez Christinet. Et là où habitait Christinet, aujourd'hui, c'est les éditions musicales Présence.
Donc il était naturel que Raoul Breton, lorsqu'il a voulu s'établir, vienne ici.
Mais bien entendu, parce que il y avait cette notion de regroupement. Il y avait cette notion de regroupement, et puis il faut savoir que les établissements où la chanson se manifestait, eh bien ils étaient multipliés d'une manière extraordinaire à partir de l'ouverture de l'Eldorado et puis du développement de la Scala. Ces établissements qui s'installent sur le boulevard et dans le Faubourg Saint-Martin, et j'insiste beaucoup, le Faubourg Saint-Martin est finalement l'axe, la coulisse, tout se passait là. Hein. Et on allait dans les cafés chercher les engagements, mais on allait également chez les éditeurs. Hein. Et chez Raoul Breton, on allait pour chercher les engagements. On voyait passer, enfin, tous les gens qui participaient à ce métier. Et alors, il y avait un aspect corporatif hein, qui s'était mêlé à ça. Et qui vous explique que le passage de l'industrie qui porte le nom tout simplement des artisans et des industriels qui étaient installés sous Louis-Philippe, qui aujourd'hui est le lieu de la coiffure, a été dans une période que l'on peut situer d'une manière extrêmement précise, qui est 1900-1950, hein, le lieu de la chanson.
Tenez. Ben les voilà. Alors attention, vous la tenez complètement. Bon, ça je le range. Vous y êtes, Michel? Quand tu veux.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même. Car c'est un petit galet bourrique. C'est le doux mélange d'un ciel affranchi, il y a les valanges, et son œil a pris, ça tremble le vent qui le range. Pas plus haut que trois femmes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qui l'appelait mon petit. Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un monde carré. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui nous arde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches.
L'atmosphère d'autrefois avec les chanteurs des rues. Aujourd'hui retrouvé dans le marché de la rue Mouffetard, François Robert chante et distribue les petits formats de chansons, accompagné par l'accordéoniste Michel Leroux.
Alors François Robert, nous nous sommes installés rue Mouffetard, vous êtes comédien, vous êtes chanteur et de temps en temps, vous, pour des manifestations spéciales, vous allez chanter dans la rue. Nous avons distribué les petits formats, c'est quelque chose évidemment qui se faisait beaucoup autrefois, à l'époque où Raoul Breton, juste avant la guerre, a commencé, et puis ensuite ça s'est un peu abandonné, peut-être à cause de la radio et de la télévision.
Je crois même que ça s'est presque totalement abandonné, les chanteurs de rue et les chanteurs de cour. J'aimerais un jour que si l'on me demandait quel est votre métier, j'aimerais répondre, je suis chanteur de rue, mais... Ça n'existe presque plus, comme je vous le disais. Parce que je me souviens, lorsque j'étais petit, il y a encore quelques années, disons une quinzaine ou une vingtaine d'années, sur les grands boulevards, et en particulier devant le théâtre du Gymnase, l'accordéoniste s'asseyait sur les marches qui mènent au théâtre, le chanteur de rue vendait ses petits formats, et alors les midinettes, grisettes, cousettes, harpettes, ne faisaient pas la dinette, mais venaient avec leurs petits sandwichs, à midi, comme ça, pendant l'heure du repas, pour chanter des chansons que leur vendait le chanteur de rue.
C'était un moyen de diffuser la chanson.
Ah, c'était un moyen de diffuser. On n'avait pas besoin de disquaires ou de marchands comme ça. C'était le chanteur des rues. Mais alors, il y en avait partout, hein. Il y en avait à la Madeleine, il y en avait sur les grands boulevards. Je me souviens, quand j'étais petit, il y en avait à la porte de Clignancourt, il y en avait à la porte d'Orléans, il y en avait tout le temps. Avec l'accordéoniste qui accompagnait et le chanteur avec son porte-voix.
Dans les années 30, quelle était l'atmosphère qui pouvait régner par ici?
Alors, c'est une atmosphère complètement différente de celle que nous avons en ce moment. Il est évident que là, nous sommes en plein après-midi et nous voyons les néons briller de tous les côtés. C'est une espèce de Broadway de la coiffure. Et pourquoi pas? Et, alors là, c'était tout à fait différent. Il faut savoir que tous ces gens qui habitaient le quartier habitaient de tout petits appartements. Tous les immeubles qui nous entourent ici, c'est des appartements de 2 pièces. 3 pièces maximum, bas de plafond, gris, extrêmement sombre. Et l'atmosphère n'était pas dans le passage, elle était dans les cafés. Hein? L'atmosphère de rue, telle qu'on peut l'imaginer, alors avec les chanteurs des rues, c'est pas du tout là que ça se passait. Ça se passait dans des endroits qui étaient les endroits publics, c'est-à-dire sur le boulevard Saint-Martin, là où nous avons le buste de Taylor, par exemple, ou bien au Carrefour, le fameux Carrefour Strasbourg-Saint-Denis. Ça, c'était un lieu où on faisait de l'or. Hein? Mais c'était en quelque sorte le lieu du spectacle. Le passage d'industrie, c'était la coulisse. C'était donc une espèce de lieu secret et les auteurs habitaient la plupart du temps dans des étages hauts et n'avaient pas de contact avec la rue. Hein. C'était donc une sorte de rue grise. Il faut imaginer ça. Et on n'y entendait pas de musique. Pour la bonne raison, c'est que les auteurs qui vivaient là, ils écrivaient sur papier. Bon, alors c'est vrai que Scotto, il prenait sa guitare. Mais enfin, ça ne fait pas beaucoup de bruit, une guitare, et ça ne s'entend pas énormément. Et puis, de toute façon, lui, il est parti assez vite de ce passage. Donc, c'était un lieu calme.
Le Breton, lorsqu'il a quitté le Patron de l'Industrie, il est allé s'installer un petit peu plus loin. Il est allé s'installer rue Montmartre, et ensuite rue Rossini. Alors,
mais ça, c'est normal. Cette espèce de développement de passage à l'ouest, il a été permanent sur le boulevard. Nous discutions... récemment, vous et moi, du fait que peut-être il avait voulu quitter ce lieu extrêmement serré, extrêmement dense. Je pense qu'il y a 2 raisons, faudrait-il qu'il nous l'explique. La première raison, c'est qu'il était installé ici tout à fait à l'étroit, parce qu'encore une fois, les locaux sont très petits. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, si vous regardez bien ce qu'est l'histoire du spectacle, eh bien vous vous rendrez compte que quand des établissements comme l'ABC ou l'Olympia prennent de l'importance, enfin l'ABC c'est les années 30, l'Olympia reprend beaucoup d'importance avec sa réouverture en 54, et même le palace qui n'est plus qu'un club aujourd'hui. Les établissements qui sont importants sont les établissements de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que les établissements de l'Est étaient restés des cafcons, plus ou moins maquillés en music hall, mais qui n'arrivaient pas bien à évoluer, alors que les établissements de l'Ouest étaient devenus des music halls et étaient devenus des lieux de tours de chant. Et je pense que c'est une autre raison que l'on peut donner pour le départ de Breton, c'est que effectivement le quartier se sauvait à coups de revues. Et que c'était pas du tout ce qui l'intéressait lui, puisque lui, il était beaucoup plus lié quand même à l'édition musicale et non pas à la revue à grand spectacle.
Je peux manger un chocolat là pendant que je vous parle ?
Si vous voulez.
Voilà, je vous en offrirai
un aussi
au
tableau de service après.
D'accord. Bon, alors, j'étais donc comédienne chez Fernand Gémier qui décide un jour, avec la troupe du théâtre de l'Odéon, donc sa troupe, de monter une revue. On ne peut plus excentrique, ça, non? Alors, une revue, bon. Tout à coup, première chose, il demande, est-ce que dans la troupe, il y a quelqu'un qui joue du piano, par exemple, et qui pourrait faire une musique... pendant un changement de décor, il faudrait 2 minutes 20, 2 minutes 30 de musique. Il y a quelqu'un qui joue du piano là. Alors, moi, je voulais faire des études, je voulais être concertiste. Donc, je savais jouer du piano. Je vais lever la main, je dis oui, c'est pas trop compliqué, je peux peut-être le faire. Très bien. Vous me faites 2 minutes 30 de musique. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? faire 2 minutes 30 de musique. Faire de la musique, ça veut dire composer. Jamais fait ça de ma vie. Comment composer? Je ne sais pas. Je me suis précipitée sur le piano qu'il y avait dans le foyer du théâtre. Et puis j'ai laissé courir mes doigts. J'ai cru que j'avais attrapé tout d'un coup une maladie parce qu'il s'est présenté sous mes doigts une sorte de musique. Ça voulait dire que je venais de composer. Composer, c'est possible, ça, boum. J'appelle Claude Dauphin, qui était décorateur, et je lui dis, je m'entends honteusement, je viens d'écouter une mélodie américaine, je voudrais te la montrer, moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors, boum, je joue mon petit air, et il trouve ça très bien. Alors, j'étais un petit peu regonflée, enfin bon, et puis on monte la revue au théâtre de l'Odéon. Et il fallait, pour régler les ensembles, les entrées, les sorties, danser un peu, il fallait un maître de ballet, en quelque sorte. Et Firmin Gémier dit, je connais un garçon qui ferait ça très bien, et il convoque un garçon très élégant, qui était danseur mondain, qui s'appelait Raoul Breton. Alors, Raoul Breton, on était tous et toutes pleines d'admiration. Enfin, c'est comme ça que j'ai rencontré, si vous voulez, Raoul Breton au théâtre de l'Odéon, en train de me régler un pas de danse. Ce Raoul Breton, là, donc, je l'avais beaucoup admiré quand il réglait la revue au théâtre de l'Odéon. Et puis, depuis que je m'étais aperçue que je savais un petit peu composer, Je m'amusais à essayer de trouver des mélodies et à raconter que c'était des chansons que j'avais entendues à la radio, jusqu'au jour où Claude Dauphin, qui m'entendait tout le temps, me dit « Mais j'ai un frère qui fait des chansons d'enfants, Jaboune. Donc j'en ai un. Et j'aimerais bien que tu puisses le rencontrer. » Alors il nous a fait une farce. Il a dit à Jean Noël que c'était un grand pianiste avec une grande barbe blanche, il composait, et tout ça, c'était important pour lui. Et à moi, il a dit, il est noir, c'est un parolier noir, mais il écrit très bien, il y a l'Afrique, formidable, très bien. Alors, nous sommes rencontrés au foyer. Moi, j'ai attendu le grand noir, lui, il a attendu la grande barbe blanche, enfin bon, ça s'est arrangé. Et il m'a dit, voulez-vous faire une opérette? Tout de suite, comme ça, j'ai dit, bah, bien sûr, j'attendais que ça. Très bien, on va faire une opérette. Ça s'appellera Fouchtra. Ah bon? Fouchtra, opérette américaine. Voilà. Alors, dans ce Fouchtra, opérette américaine, au deuxième acte, chez le charbonnier, il y avait un duo, le duo d'amour, qui était couché dans le foin. Voilà. Alors, pour Breton, pour Raoul Breton, tout ça, ça se passait au théâtre de l'Odéon. Un jour, je voulais, comme il était danseur, je voulais qu'il me dise quelque chose, je voulais être rassurée. Et j'ai joué, je lui ai joué couché dans le foin. Ben, j'ai vu qu'il avait pas mal réagi, hein. Oh, ça m'a rassurée, j'étais contente. Il a trouvé ça plutôt pas mal, bien. Je l'ai donc montré à d'autres personnes qui ont dit que c'était horrible, qu'est-ce que c'est que ça, 32 mesures. Des couplets, des refrains, bon, ça va pas du tout, c'était affreux. J'ai été engagée en Amérique, je saute très vite, j'ai été jouer une opérette à New York. Et avant de partir, comme c'était le seul qui avait trouvé possible, bien, j'avais vu, couché dans le foin, j'ai dit à Raoul Breton, je pars, je sais pas combien de temps je resterai absente, je vais créer une opérette à New York, de Noah Card. Je te laisse le manuscrit couché dans le foin puisque tu es le seul à avoir trouvé ça possible. Ça s'est passé comme ça. Je suis allée, passage de l'industrie, voir Breton après. C'est d'ailleurs, il a déménagé, j'y pense tout d'un coup, grâce à couché dans le foin, parce que je disais à Jean Noin, ça doit marcher, voilà qui s'est acheté un bureau. Il n'y avait pas d'autre chanson que Coucher dans le foin, que les nôtres, que la nôtre. C'est vrai, la nôtre. Et puis quand j'ai vu qu'il s'était acheté des fauteuils, alors là, je me suis dit, ça, oh là là, c'est la consécration, hein. Bon, le bureau, tout ça, jusqu'à ce qu'il déménage après. Mais moi, j'étais donc partie en Amérique. Je ne savais pas ce qui se passait. Tout d'un coup, j'ai reçu un télégramme de mon père. « Connais-tu Pils et Tabet ? Qu'est-ce que c'est que ce coucher dans le foin qui casse les oreilles à la France entière ?» Comme à ce moment-là, les disques se cassaient, les gens jouaient couchés dans le foin, énervés, cassaient le disque et le rachetaient, puisqu'on n'arrivait pas à en presser assez. Alors, reviens, signé papa. Alors, bon, je pouvais. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Voilà. Retrouver Jean Noin. Et en effet, c'était... on fermait les fenêtres pour plus entendre ça, tellement c'était agaçant. Et puis, le directeur de la maison de disques de Columbia nous a convoqués tous les deux. Est-ce que vous êtes capable d'en faire d'autres? Est-ce que vous avez essayé de faire d'autres musiques, d'autres paroles, etc. On a dit non. Et puis Jean Noël a dit, j'ai une idée. Ça va s'appeler le mois de vacances. Ah bon? Alors, ça sera l'histoire de trois garçons qui travaillent dans une agence de voyage et d'une dactylo qui est là. Vous. Moi. Bon, on va essayer. Alors, trois garçons. Donc, il y avait les deux garçons, Pils et Tabet, qui chantaient couchés dans le foin. Il fallait un troisième garçon. Et moi, j'avais très, très envie de Jean Sablon. C'est ce qu'on a fait. Et puis, ça s'est bien passé. Hein. Parce que Breton, il a encore déménagé, a encore acheté plein de meubles.
Il est parti après rue Montmartre.
Oui.
Et ensuite, rue Rossini.
C'est ça. Et il y avait, après, quand un vicomte rencontre un autre vicomte, alors là, on est allé rue Rossini, c'était du cuir sur le bureau, le fauteuil en velours, tout ça.
Venez, venez, soyez aimables, venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux, le bridge est adorable. Comment vous n'êtes pas très forte, ça ne fait rien du tout, qu'importe. Si vous gaffez, nous fermerons les yeux. Asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper.
C'est moi qui donne.
Allez, couper.
Couper.
Pique. Deux carreaux.
Trois sans atout.
Bon, dame.
Roi.
Allez. Honneur sur honneur.
Non, mais qu'est-ce que tu fais?
Mon as de pique.
Comment l'as de pique? Comment?
C'est fou, je ne puis pas admettre qu'on me coupe quand je suis maître.
Et c'est dans la porte du mort qu'on joue.
Pour ne rien compromettre.
Et puis il existe une règle. Dans sa longueur, on joue sa faible.
Allons, mademoiselle, mais à quoi pensiez-vous?
Quand on n'a qu'un tout petit jeu de rien du tout,
on ne demande pas 300 atouts.
Messieurs, vous n'êtes pas aimables. J'étais venu à votre table. Le bridge est un jeu qui me fait horreur. Le bridge est détestable. Et puis d'abord, permettez que je vous explique pourquoi j'ai joué mon as de pique. C'est que j'ai cru couper la dame de cœur. Et vous n'allez tout de même pas m'avaler pour deux rois et pour un petit valet.
Oh, alors, je vous en prie.
Consolez-vous, mademoiselle. Nous avions perdu la cervelle. Vous n'aviez pas besoin de faire grand chelem. Allez pour qu'on vous aime. Laissons ces cartes imbéciles.
Laissons ces cartes imbéciles.
Séchez vos cils et vos pupilles.
Je sèche mes cils et mes pupilles.
Quand on a des yeux aussi doux que vous,
même avec un tout petit jeu de rien du tout,
on peut demander 400
atouts.
Venez, 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 venez.
Venez, venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux. Le bridge est adorable.
Une partie de bridge avec Mireille, entouré de Pile Sétabais et de Jean Sablon.
Henriette Patachou est restée deux bonnes années chez mon ami Raoul Breton en qualité de secrétaire sténodactylo. Et elle est trop simple et trop gentille pour ne pas se froisser si je révèle ce petit secret. Oui, c'est elle qui a tapé à la machine mes premières chansons. Boum, je chante, fleur bleue. Elle a même tapé les contrats de ces chansons. Mais comment pouvais-je me douter que cette sténo hors pair, elle était formidable hein, comme sténo, hein, oui vraiment, qui prenait entre 130 et 140 mots la minute, deviendrait un jour une des plus grandes vedettes de la chanson. Parce qu'elle ne chantait pas à ce moment-là, non. Elle tapait et elle écoutait.
Voulez-vous jouer avec moi le jeu d'amour, la tendre guerre? Mais ne cherchez pas pourquoi l'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas l'atout. Voulez-vous jouer avec moi un jour, un an, la vie entière? Est souveraine, car les valets valent les rois. Si les fous protègent la reine, au jeu des jamais 203, l'amour c'est un coup de poker, un jeu de passe impair et manque. Venez, venez tenir la banque. Au jeu d'à tous les coups l'on fait. Voulez-vous jouer avec moi le jeu d'amour, la tendre guerre? Mais ne cherchez pas pourquoi l'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas la tout. Voulez-vous jouer avec moi un jour, un an, la vie entière?
Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans cette pièce-là, qui en fait n'a pas changé, si ce n'est que bon, il y a plus le lit qui était là, parce que le marquis et la marquise habitaient ici. C'est là où ils dormaient, c'est là où il y avait la table, où il y avait les repas. Et bien, le marquis se levait toujours très tôt, puisque pour la plupart du temps, quand j'arrivais le matin, moi, pour travailler à 9h, et je trouvais le marquis dans le bureau. Alors, la lumière, qu'est-ce qu'ils en ont foutu de la lumière? Oui, elle est là, elle était là. Bon, ça, c'était la salle de bain, c'était pas comme ça du tout. Et là, on partait pour la cuisine. Le voyage. En avant pour l'aventure. Alors là, c'est là ce que vous imaginez. Et nous voilà partis pour la cuisine. Vous imaginez que ça affolait les bonnes quand elles arrivaient. 2, 3, 4, 5, 6.
C'était Profil perdu, Raoul Breton. Profil perdu avec Mireille, Patachou, Henri Comté, Pierre Sacca, Jean-Jacques Debout, Pascal Payen, Ponzeller et la voix de Charles Trenet. Le chanteur François Robert était accompagné à l'accordéon par Michel Lérault. Archive INA, Catherine Louis.
Ah mais attends, on n'est même pas arrivé encore. Si, on est arrivé.
Profil perdu, une émission proposée par Thierry Aveline. Équipe de réalisation, Frédéric Joly, Eric Damaggio, Philippe Carminati, Philippe Destrebecq, Daniel Fontanarosa.
Et ça, c'était la cuisine avec l'arrière-cuisine. Voilà. Eh bien, c'est plus la cuisine, c'est plein de chansons. C'est plein de petits formats, dis donc. Oh, ouais. Tu vois, les grandes chansons de Trenet. Tu te cognes d'entraîner partout ici, mais c'est normal. Breton avait cette... Je sais pas s'il y en a des éditeurs comme ça. Peut-être y en a-t-il, peut-être y en a-t-il eu. J'en sais rien. Breton, c'était pas un découvreur de talent. C'était un détecteur de talent. Hein? Je crois que c'est pas vraiment la même chose. C'était un homme qui sentait les possibilités d'un auteur. Qui peut-être... je crois qu'il s'est jamais trompé. Parce qu'il lui arrivait de larguer très vite. Hein. Ce qu'on aurait peut-être pu considérer comme étant un peu brutal, mais il ne perdait pas de temps. Mais il n'en faisait pas perdre non plus. Ce qui est une forme d'honnêteté. Allez, on part, en avant l'aventure. Et là, on se retrouvait ici. Venez, jeune femme, on écrira après.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 janvier 1993. À suivre, le deuxième volet de ce Profil perdu consacré à Raoul Breton.